France Culture.
Pour vous, quel bruit fait la neige ?
La neige fait beaucoup de bruits différents. Elle fait un bruit silencieux quand elle tombe, et c'est apaisant. Au printemps, quand il y a une avalanche, elle fait un vacarme assourdissant. Et la neige fait un bruit cristallin et métallique sous les skis. Voilà, c'est toute une palette de sons.
Elle a l'avantage d'être un bon isolant acoustique.
Ce que j'apprécie le plus dans la neige, c'est quand je me balade et que tous les bruits de la nature sont amortis et que j'ai ce sentiment de solitude qui est à la fois visuel et sonore. C'est cette espèce de plénitude d'essence dans le rien, quoi.
Ah bah alors ça, c'est une question... Ça dépend de la qualité de la neige, hein. C'est indescriptible. La neige fraîche, c'est un peu plus comme de la brume, tu vois, et après, quand t'arrives sur du gelé, c'est... Comme quand tu mets tes essuie-glaces sur le pare-brise. Ça fait vraiment genre ce même effet glacé, là. Je sais pas, ouais, non, c'est... Tu sais, quand on froisse un papier, ça fait un peu ce bruit-là.
Neige, écho d'une disparition. Quentin Teneau, Agnès Catou.
Quand elle tombe, on a l'impression qu'elle fait pas de bruit. Mais je peux vous dire qu'elle fait un bruit, qu'elle fait quelque chose. Puisque tous les matins où elle tombe, on l'entend tomber. Depuis mon lit, je sais qu'elle tombe. Voilà. Donc ne me demandez pas quel bruit, est-ce que vous venez de me voir, mais elle fait un bruit. En tous les cas, une ambiance, une atmosphère.
Deuxième épisode, le Capital Neige.
Nous sommes sur la route de la Haute-Savoie et nous nous sommes arrêtés à Megève pour faire une petite pause café. Le soir est en train de tomber doucement, le haut des montagnes enneigées était illuminé tout en rose. Il fait moins 2 degrés, il fait un peu froid. On est juste devant l'église du village. Il y a un peu de neige sur le clocher. C'est assez carte postale. Et alors, ils ont le sapin de Noël le plus dodu de France, je pense, qui est sponsorisé par une marque de bijoux de luxe. Il y a beaucoup de magasins de luxe, quand même, dans les rues.
Un clocher tout blanc qui scintille au soleil.
Et sur la route, j'étais justement en train de lire un livre qui date de 1975, qui s'appelle « La neige empoisonnée ». Écrit par Daniel Arnaud, réédité récemment aux éditions Inverse, où il parle justement de Megève.
Montagne qui sort du sommeil, fait les 12 yeux à Megève. Tout là-haut, la neige étincelle, la vie est belle et dans le ciel, y a de la joie.
Né d'un caprice, Megève va rapidement devenir la Mecque des snobs. Baronne et épouse d'un homme dont le nom est à lui seul un symbole, Noémie de Rothschild a jeté son dévolu sur ce village savoyard typique. Elle a épuisé toutes les joies de la Suisse, qui bien avant la France, attire les touristes sur ses pentes neigeuses. Davos, Saint-Moritz, Stadt ont déjà séduit tout ce que l'Europe compte de têtes couronnées, de banquiers et d'industriels. Où s'installer ? Chamonix vit déjà fort bien grâce à la renommée du Mont Blanc et à la vogue de l'alpinisme. Elle s'installera un peu plus loin, dans une vallée riante de Savoie, le Haut-Arly. Un premier hôtel, le Mont d'Arbois, verra le jour en 1921. Maurice de Rothschild, l'époux de Noémie, y consacra, dit-on, 100 millions de francs de l'époque, pour les beaux yeux de sa femme. Comme le veut en tout cas la légende dorée sur tranche de cette station, plus réputée aujourd'hui pour ses snobs et sa dolce vita que pour la difficulté de ses pistes, les chalets se sont disséminés, mais le charme du village savoyard demeure.
Et quand le soleil tombe en fin de sommeil, on redescend vers Megève.
C'est vrai que c'est charmant, Megève. J'ai beau avoir grandi à une heure d'ici, je n'y avais jamais mis les pieds. J'apprends qu'on l'appelle station de première génération, parce qu'elle fait partie des pionnières françaises de l'or blanc, de celles qui ont su transformer la contrainte neige en ressource profitable. Et à lui faire générer tout un tas de nouveaux bruits, du ski qui dérape à la dameuse qui prépare la piste. Mais les stations de ski qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont celles qui se sont développées un peu plus haut en altitude et un peu plus tard, dans les années 60. Celles dites de troisième génération, que l'État a encouragées avec le plan Neige. De véritables villes des neiges, créées ex nihilo sur les alpages de quelques paysans. Comment a-t-on réussi à aménager la montagne, à dompter la neige, à en faire un produit sur lequel capitaliser pour le vendre à des clients toujours plus fortunés ? Pour répondre à cette question, j'ai choisi de retourner dans celle où j'ai appris à skier, dans la vallée où j'ai grandi, à Voria, en Haute-Savoie. Et si j'ai renoncé au ski il y a 15 ans, il me faudra bien en rechausser une paire, non sans appréhension, pour aller parler à ceux qui aménagent, sécurisent et glissent sur ces pistes. Mais avant toute chose, petit cours d'histoire d'aménagement du territoire avec un chercheur spécialiste des stations de ski, Hugues François.
Le tourisme en montagne se développe finalement assez tôt, en même temps que le tourisme à la fin du 19e siècle. C'est un tourisme essentiellement bourgeois, de villégiature, donc vraiment en continuité de l'urbanisation existante, et qui s'est plutôt développé dans un premier temps sur l'été. Et puis petit à petit, ce tourisme il a débordé sur l'hiver. C'est comme ça que le ski est devenu un loisir sur des espaces qui étaient laissés libres par l'agriculture parce que couverts de neige. Donc ça a commencé vraiment comme ça, de manière externe, un petit peu spontanée, à droite, à gauche. Ensuite, il y a eu au milieu du XXe siècle la rupture de la Deuxième Guerre mondiale, où là, on a commencé à avoir une vision portée par l'État français, hein, qui était donc une vision qui correspondait aussi à l'imaginaire pétainiste de la ruralité, de l'homme fort, de la dimension sportive qu'il y avait à travers la fréquentation de la montagne, qui a conduit à ce qu'on a appelé la mission 42, qui avait pour objectif de faire un repérage systématique des sites qui pouvaient être favorables à la pratique des sports d'hiver. Donc on avait déjà une petite émergence du ski qui a commencé à devenir, pour les pouvoirs publics, un objet d'aménagement d'intérêt pendant la période de la collaboration, et ce qui fait que finalement à la libération on avait déjà un certain nombre d'éléments qui étaient disponibles pour se lancer plus avant dans l'aménagement touristique de la montagne.
On est devant le chalet où j'ai grandi pour aller voir ma maman à chercher des skis.
Hello.
Ouf, c'est le bazar.
Alors, des skis. Tu vas avoir des skis pour faire des sauts.
Ouais.
Des skis de compétition.
Je sais pas si j'en suis là.
Et puis, alors, les skis de fond, mais bon, tu vas pas faire des skis de fond.
Non.
Non.
Alors, en fait, le truc, c'est qu'il me faudrait quelque chose de polyvalent,
ça,
et
c'est
simple.
Pas
quoi.
Mal, hein.
Parce que je t'avoue que je suis pas non plus méga rassuré.
Bah, t'étais au ski club avant, quand même.
Bah oui, mais j'ai pas fait de ski depuis combien de temps?
Ah, depuis un petit moment, ouais. Voilà, ski bâton chaussure, c'est pas mal.
On remonte pour les
essayer.
Et un
forfait, ouais.
Forfait, j'ai. Nous sommes en bas du télécabine d'Avoria. Il est 8h45, le ciel est bleu, il fait moins 3 degrés, les épicéas sont enneigés, et c'est le jour d'ouverture de la station. Alors nous aurions dû acheter notre forfait journée pour la modique somme de 56 euros. Mais comme l'office de tourisme nous a gentiment invités, nous n'avons rien payé. Voilà, le conflit d'intérêts est déclaré. Alors maintenant, retrouvons Laurie Eloi, une copine d'enfance qui travaille justement à l'office de tourisme d'Avoria.
Ça va, toi ?
Ouais. Il fait beau, il fait froid, donc la neige va être bonne.
Ouais.
Tu vas te régaler.
Laurie, je
travailles à l'office du tourisme ?
Je travaille à l'office du tourisme d'Avoria en tant qu'attaché presse pour la station. Donc mon but, c'est de donner du rêve aux gens, leur donner envie de venir skier, de venir découvrir la station. C'est cool quand même, non ?
Pour le contexte, on était au ski club ensemble de nos quoi, de nos 5 ans à 15 ans,
ouais. Ou comme ça. Exactement.
Même on était au collège, on était en classe ski, on avait des après-midi aménagés pour aller faire du ski en hiver.
On allait le mercredi après-midi et le vendredi après-midi, je crois.
Ouais, je crois que c'est ça. Non, puis après, même toutes les vacances, tous les samedis, tous les dimanches, matin, quel que soit.
Les stages de ski à l'automne.
Ouais, il y a plein de moments drôles, mais c'est dur aussi.
Après, c'est...
La compète et tout.
C'est... Ouais, c'est ça, c'est la passion. Il y en a qui continuent le ski, toi, maintenant ils enseignent. Nous, on n'a pas pris ce virage.
Ouais.
Même si je suis tous les
toi,
jours encore
là,
oui, et je suis quand même tous les jours sur les skis, mais c'est juste que moi ce qui me fait le plus vibrer aujourd'hui c'est les skis de rando.
On arrive,
ouais, c'est rapide hein. Et là on dirait qu'on arrive un peu dans une gare de métro. C'est un peu, c'est étrange, mais après vous allez voir quand vous allez sortir, bam, la neige, le décor.
C'est vrai que ça fait vraiment Paris avec l'escalator.
C'est un truc de fou, hein. Mais au moins, les Parisiens ne sont pas dénaturés quand ils arrivent ici. On essaye de garder une petite touche parisienne. Voilà, ça c'était notre jeunesse.
Ah, le ski club, incroyable.
Je suis Simon Poutier, je suis architecte à Avoria. Et je suis également moniteur de ski. Et je suis arrivé à Avoria par le biais du monitorat. Et c'est suite à une rencontre avec Jacques Labro, qui est donc l'architecte qui a créé la station en 66, qu'en fait une amitié s'est nouée et j'ai repris la gestion de l'atelier d'architecture en 2007, quand il y a eu les dernières vagues de construction et de développement de la station. Sur la place Jean Vuarnet. La place Jean Vuarnet, c'est le point de départ, on va dire, de cette station qui, en 63, décide de fabriquer un téléphérique. Alors, comme tous les téléphériques, ils ont tous été en leur temps les plus rapides et avec la plus grande capacité au monde. Et on a créé un nouveau téléphérique qui est là, un souterrain qu'on voit pas derrière ce rideau, avec un débit beaucoup plus important, puisqu'avant, ici, il y avait 600 ou 800 personnes-heure. Et là, on est à quasiment plus de 3000 personnes-heure. Donc à Avoria, on arrive maintenant soit par le téléphérique, soit par la route. Et ce qui est un peu une gageure, parce qu'on arrive dans une station sans voiture. Donc pourquoi faire monter la voiture à 1800 mètres ? Mais la raison, elle est que la technologie ne permettait pas à l'époque.
Archivina, 1977.
Exploiter rationnellement les gisements d'or blanc, c'est-à-dire équiper la montagne en remontée mécanique, construire suffisamment de lits pour accueillir les skieurs, faire de la neige un piège à devise, tels furent les objectifs du plan neige. Politique très empirique d'aménagement de la montagne, politique élaborée au cours des années 60 et mise en œuvre à partir de 1970. Le plan prévoyait la construction de 150 000 lits nouveaux en montagne entre 71 et 75.
Hugues-François, qu'est-ce que c'est que ce plan neige ?
De manière générale, moi j'aime pas trop parler de plan neige parce que c'est finalement quelque chose d'assez flou par rapport à ce qu'on attend d'une planification qui fixe des objectifs bien précis. Je préfère parler de doctrine parce que derrière la planification se cache surtout une vision très arrêtée de la manière de construire une station de sport d'hiver. Le promoteur unique, une personne qui fait à la fois la construction immobilière et l'aménagement du domaine skiable, l'usage systématique de l'expropriation pour constituer une réserve foncière libre de droit pour pouvoir justement partir d'une feuille vierge dans la construction de la station et garantir l'absence de concurrence au promoteur unique. Et le modèle de financement qui va avec ces deux premiers facteurs, c'est-à-dire le fait qu'on va financer les remontées mécaniques par la promotion immobilière.
Simon Cloutier, Avoria est l'une des grandes stations d'altitude emblématiques du plan neige. Ce sont trois architectes, dont Jacques Labro, qui ont pensé cette ville. Enfin, on va peut-être pas dire ville d'ailleurs, mais station.
Non, justement, je pense que le mot ville, il est bien adapté. Parce que Jacques Labraud avait toujours coutume de dire que c'était plutôt la volonté de créer un lieu de vie à la montagne et absolument pas une station de ski en tant que telle. On a développé le concept du ski urbain. Les gens skient dans la station, pas seulement pour faire du ski, ils skient également pour aller faire des courses, ils skient pour aller à la crèche. Voilà, on est toujours dans cette notion de glisse. Et le plan de masse général de la station, il a été pensé en gravitaire. C'est-à-dire que tout bâtiment, la condition sine qua non de son implantation, c'est est-ce qu'on peut partir ski au pied et revenir ski au pied. Donc, il faut justement étudier cette topographie et faire l'implantation de ces bâtiments en fonction de cette donnée. Et en fait, quand on arrive par la route, mais également ici au téléphérique, on peut commander un transport. Et donc, c'est ce genre de chenillettes qui viennent, où on a des traîneaux.
Avec des chevaux.
Avec des chevaux. Ça n'a pas toujours été des chevaux.
À vous ?
Tout au début de la station, c'était des rennes. C'est pour ça qu'il y a eu pendant très longtemps le symbole du renne dans la station. Et les rennes, ça vient de Laponie et ça a plutôt tendance à vivre sur des grandes prairies. Et donc, c'était pas forcément très adapté à 1800 mètres d'altitude avec de telles côtes. Et surtout, le renne, c'est pas aussi docile qu'un cheval.
Hello.
Fait de la luge.
Ah,
l'école.
De descente là de. En terrasse.
Les enfants à Roya, ils vont à l'école en luge.
C'est vrai, ça c'est pas un mythe.
Ah non, c'est pas un mythe. Toujours cette histoire du gravitaire. Ouais. C'est-à-dire que là, on va arriver au sommet et on va redescendre à nouveau. C'est bien pour les parents, c'est moins fatigant de tirer une luge. À la descente. Ah bah ouais, hein. J'en aime bien de descendre. Pour en revenir à cette histoire du gravitaire, qui est vraiment fondatrice, faut toujours avoir le réflexe de descendre. Donc on va d'abord descendre, prendre un ascenseur qui va nous faire remonter et à nouveau retrouver du gravitaire et glisser. Donc moi le matin, quand j'emmène mes enfants à la crèche ou à l'école, je prends un ascenseur et je vais glisser, soit en les tirant par la luge ou avec des skis. Mais en tout cas, on va toujours avoir ce réflexe de se dire c'est pas le chemin le plus court, c'est le chemin qui monte le moins.
Hein ? Parce que vous habitez ici, Simon Cloutier ?
Oui, tout à fait. Alors, depuis 1989, quand je suis arrivé, j'étais moniteur de ski. Puis depuis 2000, j'y habite en tant qu'architecte et moniteur de ski. Et mon bureau d'architecture se trouve ici. Et les enfants vivent ici à l'année. On a une école, une crèche qui est ouverte toute l'année. Et on est à peu près 150 à vivre ici toute l'année. Alors il y a des périodes où, comme là en pleine saison, il va y avoir quasi 20 000 personnes. Et puis à l'intersaison mai-juin, on va plutôt se retrouver un peu sur la lune. Il n'y aura pas grand monde. Hein.
Archivina, 1968.
Pour nous, pendant l'été, il y a les ouvriers, il y a tous les gens qui travaillent, c'est-à-dire les centaines de types qui travaillent ici, avec lesquels on crée des contacts permanents, qui sont des contacts de chantier, qui vivent et qui, pendant l'été, dominent le chantier, le possèdent. Ils sont partout, quoi. C'est eux qui commandent. Ils ont leur cantine, nous, on bouffe à la cantine. C'est ça le paradoxe. Et puis, tout à coup, je disais au 21 décembre, il faut que tous ces types-là disparaissent. Il ne faut plus qu'on voit trace de travail parce que c'est une usine à spectacle. Ici, c'est une usine plutôt qu'à spectacle, c'est une usine à détente. Il ne faut pas qu'ici on retrouve ce qui est horrible dans la ville, c'est-à-dire la trace de la suggestion au travail, au patron. Non, plus d'ouvriers, plus de mecs qui travaillent, il faut qu'ici on soit dans la... je sais pas où, quoi, dans l'an 2000, sur la planète Mars.
Tu es prêt?
Tu penses que c'est pas dangereux?
Alors, comment dire? Ça dépend ce que tu... fait comme non, le ski, tu vas pas aller à fond sur la piste.
Non, je pense pas.
Bon, bah alors c'est pas dangereux, tu vas aller tout doux.
Je suis tranquille.
Tu vas retrouver des sensations.
Ouais.
Le tout, c'est ça.
Bon, bah si je me fais mal, je t'appelle.
Je m'appelle Thomas Faucheur, je suis directeur général de la CERMA, donc la société qui exploite le domaine de ski d'Avoria.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la vue depuis votre bureau ?
Alors j'ai la chance effectivement d'avoir un très beau bureau dans le sens où c'est un panorama magnifique sur nos montagnes, en tous les cas le nord des Alpes, vraiment puisqu'on est dans le Chablais, dans le plus beau pays du monde, coincé entre le lac Léman et le Mont Blanc, on va dire. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est blanc. Donc c'est, une couche de peinture, parce que c'est vrai que ce n'est pas un enneigement énorme, mais en tous les cas, c'est blanc partout. Il y a déjà eu plusieurs chutes de neige, des chutes de neige moyennes. Pour moi, c'est un démarrage de saison qui est plutôt conforme. Alors conforme, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on a bien conscience que le climat il évolue, qu'il se passe des choses. C'est clair que nous, on vit, notre activité est évidemment très météo-dépendante, donc évidemment, on voit ces changements.
Est-ce qu'on peut dire que votre entreprise dépend essentiellement de la neige?
Oui, on dépend essentiellement de la neige, mais pas seulement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, des sociétés comme les nôtres, on a déjà entamé des process de diversification d'autres activités. Pour autant, on n'a pas non plus remplacé, on ne va pas raconter de bêtises, on n'a pas remplacé le modèle du ski. La neige, ça restera toujours quelque chose qui sera magique, et d'autant plus si la chose se raréfie. Donc cette économie, ben oui, ça reste quelque chose qui est un peu génial, et finalement qui répond à une attente des gens de pouvoir s'évader, de pouvoir souffler, faire du sport, changer d'univers. Et la force des stations, c'est d'avoir organisé tout ça. C'est d'organiser les accès, c'est d'organiser les parkings, c'est d'organiser les hébergements, c'est d'organiser l'amusement, le loisir, dans un espace qui est plutôt limité. Parce que finalement, les stations de ski occupent un pourcentage assez faible de la surface réelle des montagnes. Donc on occupe un espace finalement qui est un peu fermé, où un nombre important de personnes peuvent s'amuser.
Que ça serait charmant sur terre, un pays où les gens ne viendraient que par plaisir pour se distraire, où dans ce but tout serait fait.
Les multiples vocations de Morzine Avoriaz, M. Pierre Cussac, directeur de l'Office du tourisme, nous les expose maintenant.
Archivina, 1968.
Morzine Avoriaz, d'abord, c'est assez récent, puisque Morzine était la station de vallée, et maintenant Avoriaz est devenue la station d'altitude. C'est une station déjà internationale, avec une capacité très importante au point de vue lit, mais avec une grande variété, depuis la pension de famille jusqu'aux hôtels de luxe.
Combien y a-t-il d'hôtels?
Il y a 73 hôtels actuellement, et 900 chalets locatifs, 10 maisons d'enfants, donc une capacité totale de 12 500 lits.
Est-ce que vous pouvez me donner une idée des prix à peu près? Est-ce que les prix sont très élevés?
Les prix sont très élevés, non, certainement pas, puisqu'on peut varier pratiquement de 25 francs dans une pension jusqu'à 90 francs dans un hôtel de grand luxe.
Dites-moi, est-ce qu'il reste encore de la place pour la saison?
Pour la saison, oui, il reste encore de la place à Noël. Il en reste très certainement en janvier et en mars. En février, pendant les périodes des vacances scolaires, c'est déjà très 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 chargé.
Il en reste dans toutes les catégories?
Il en reste dans toutes les catégories, oui.
Amusez-vous comme des fous. La vie est si courte après tout.
Finalement, aujourd'hui, effectivement, on a à peu près 8,5% de la population qui part en vacances au sport d'hiver.
Hugues François.
C'est pas beaucoup. C'est quand même loin d'être négligeable par rapport à l'ensemble des personnes qui font et qui pratiquent le tourisme, qui reste quand même une activité en tant que telle qui est luxueuse. Mais ça correspond aussi aux enjeux de l'aménagement du territoire, puisque l'objectif du tourisme, c'est qu'il y ait de l'argent frais qui arrive sur les zones qui reçoivent les touristes. Donc forcément, on ne veut pas des touristes qui ne peuvent pas dépenser d'argent. C'est un petit peu tautologique, cette vision des choses. Donc comme on fait de l'aménagement du territoire, forcément, les premiers destinataires, c'est les montagnards. Et derrière, les gens qu'on veut faire venir, c'est des gens qui ont les moyens de dépenser de l'argent. Et aujourd'hui, l'argument principal pour soutenir la légitimité du développement des sports d'hiver, c'est la dépendance économique. Et on dit, pour reprendre les arguments qui sont ceux de Domaine Skiable de France, que 1 euro dépensé dans les remontées mécaniques, c'est 7 euros dépensés sur le territoire. Voilà, ça fait partie des éléments de discours qui contribuent à soutenir le développement des sports d'hiver.
Il est 13h, il fait toujours grand beau à Avoria. J'ai mangé une omelette à 19 euros et je suis prêt, je crois, à tenter de faire ma première glisse depuis 15 ans. J'ai donné rendez-vous à une vieille connaissance, Noélie, qui a 24 ans et qui est monitrice de ski.
Ça caille là.
Ouais,
d'habitude, moi je reviens des Philippines, là. Hier j'étais aux Philippines. Je suis arrivée à 14h, là j'ai un peu froid. Ça va? Vous avez fait du grand freeride ce matin, non? Ouais, dans les bons endroits. Elle est belle ta nouvelle tenue, Loulou. C'est cool, aujourd'hui on a une belle journée, il n'y a pas trop de monde. C'est top. Mais on va y aller tranquille. Là, on va faire la première glissade, comme ça je vais pouvoir un peu regarder ton niveau. Et puis on ira sur une piste plutôt facile, c'est le début de saison, hein. Faut pas se mettre dans le rouge. Hein.
Ouais, non, je suis pas échauffé.
Bon, alors tu te remets sur l'avant de tes chaussures.
Ouais.
Ok, tu plies tes jambes, tu te détends. Hein. Au début, fais du chasse-neige. Et après, tu referas du dérapage.
Putain, mais ça va vite là. Hein.
Non, ouais, tranquille, tout va bien. Et là, après, on va juste faire des grands virages, tranquille.
Wouh! Ça glisse.
Ça freine, hein. Ça prend de la vitesse. Tout de suite, tourne.
Voilà. Bon, bah ça va.
Parfait.
Je suis pas tombé.
Archivina, 1978.
Le soleil magnifique sous lequel s'est réveillé Avoriaz ce matin a sans doute contribué à ramener un peu de calme. La fièvre provoquée par l'arrivée massive des vedettes hier après-midi est retombée. Le public s'habitue à leur présence. Le grand jeu consiste pour les vacanciers à tenter d'identifier ces vedettes dont la participation témoigne de la place prise dans les milieux du cinéma par le festival d'Avoriaz.
J'imagine que lorsqu'on est architecte, qu'on pense à un projet énorme comme ça, on se demande à qui il s'adresse, qui va venir y habiter, y vivre. Je crois que dans les années 70, Avoria est un peu perçu comme la station des snobs. Est-ce que Jacques Labro avait conscience de construire une station pour les snobs, entre guillemets?
Alors, en fait, c'est
Simon Cloutier.
Une idée fausse et totalement reçue là-dessus, qui est certainement due au Festival du film fantastique, qui a eu lieu uniquement de 1973 à 1993. Aujourd'hui, tout le monde nous dit encore, mais quand est-ce qu'a lieu le festival? On leur dit, bah, depuis 1993, il n'existe plus. Donc, et pourquoi, en fait, il existait, ce festival? C'est un outil de promotion immobilière qui permet de faire parler d'Avoria pendant toute la semaine du festival, à une heure de grande écoute. Et tant qu'il y a des immeubles à vendre, entre guillemets, le festival perdure. Et le jour où les derniers mètres carrés sont construits et vendus, le festival s'arrête. Parce qu'il n'y a plus besoin de faire de promotion. Ensuite, quand on va recréer le quartier de la Mara, la nouvelle extension en 2010, 2012, 2014, il y aura à nouveau un festival. Là, c'est un festival de jazz.
Le festival n'est pas tout à Avoriaz. Le ski reste bien entendu la première occupation, d'autant plus que la neige est bonne et abondante.
Là, on va prendre un ascenseur public qui va nous emmener directement au 13e étage d'un bâtiment, dans lequel on va retrouver une coursive publique, une traboule. Et en fait, Avoria est composé comme ça de différents étages. Donc on va arriver à la courbe 1800 mètres. Et on va monter jusqu'à 1870 mètres. C'est le périph', hein. Et en fait, on va passer par le biais de ces ascenseurs et de ces traboules successives. Bravo. Même si c'est électrique, ça fait du bruit.
Celle-là, c'est pas électrique.
Non, ça, c'est une vieille, ça. Ce qui est souvent un peu troublant ici, c'est comme la neige, elle absorbe les bruits. En fait, du point de vue phonique, c'est un endroit qui est quand même relativement calme. Et dès qu'il est perturbé par un engin, ben, on a l'impression que cet engin il fait énormément de bruit. Alors que si on fait une mesure, on va s'apercevoir que ça fait bien moins de bruit que dans une rue où il y a des véhicules qui passent en permanence. Mais ce contraste comme ça entre... Je suis dans un monde de piétons où finalement voilà, on n'entend pas grand chose hormis des gens qui glissent ou qui marchent dans la neige avec la neige qui crisse. Dès qu'on a l'engin qui passe, c'est presque vu comme une agression.
Donc là on est dans le centre d'Avoria, on est en train
de... Là on arrive justement devant le bâtiment iconique de la station puisque c'est l'hôtel des Dromont. C'est le premier bâtiment qui a été construit en 66. C'est un bâtiment que Jacques Labro dessine quasiment tout seul dans sa chambre de bonne, mais qui donne en fait tout le souffle architectural à la station. tous ces fondamentaux qui sont dans ce bâtiment. Ils vont être déclinés en fait pendant plus de 50 ans, voire 60 ans. Et encore aujourd'hui, on a à l'esprit ces fondamentaux. Et c'est ce qui fait que ça crée quelque part l'unité architecturale de la station.
Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce bâtiment ?
Là, on est dans une version où il n'est pas trop enneigé, mais il faut se dire qu'en hiver, il est complètement recouvert. C'est une sorte d'igloo. Il a même été skié par quelques fous. Et c'est un bâtiment qui est entièrement recouvert de tuiles de bois, donc des tavaillons qui sont faits en red cedar. Le red cedar, c'est un bois qui a des qualités naturelles. En fait, il est naturellement imputrescible, donc il ne nécessite aucun traitement. On a qualifié souvent la station d'Avoria de mimétique ou un peu de caméléon parce qu'elle se fond dans le paysage, et c'est grâce à ce choix de matériaux en fait, puisque ce bois, il a la capacité de griser ou de changer de teinte suivant les orientations et suivant les intempéries, et c'est ce qui fait que ça participe finalement à ce que l'architecture se fonde dans le paysage.
D'un point de vue architectural, que ce soit pour Jacques Labraud dans les années 60-70 ou vous aujourd'hui, comment la neige vient s'intégrer dans votre réflexion architecturale, à la fois comme une contrainte ou comme un atout ?
C'est une contrainte, bien évidemment, mais c'est également un atout. Parce que de ces contraintes, effectivement, on va devoir dimensionner des éléments qui résistent à des tonnes de neige, qui en plus, quand il y a un redoux, s'alourdit vraiment fortement. Et puis à l'inverse, c'est aussi un formidable outil avec lequel on peut sculpter. On s'aperçoit qu'en hiver, les formes des bâtiments s'adoucissent. Ça fait partie intégrante du paysage. On parlait tout à l'heure des inventions constructives. Il y en a une qui est extrêmement importante. C'est la toiture porte-neige. La toiture porte-neige, c'est un système qui est inventé ici et qui est repris aussi aux Arcs. C'est, en fait, ici, on a des toitures qui sont faites en béton, avec ce système du porte-neige. Sur la dalle béton, on met un isolant, une étanchéité. On fait sortir des petits potelets métalliques sur lesquels on va porter le porte-neige, qui, lui, est en bois. Et c'est comme une sorte de terrasse, en fait, hein, sauf qu'elle est en pente, sur laquelle la neige va se déposer, elle va s'accrocher. Et comme elle n'est pas en contact avec le bâtiment directement, il y a la chaleur qui est potentiellement peut migrer du bâtiment vers l'extérieur et qui d'habitude fait des phénomènes de gel-dégel. Et ben là, comme elle n'est pas en contact, cette neige, et ben elle se comporte exactement comme la neige qu'on a partout autour sur les montagnes et sur les pistes. C'est là où il y a cette intégration quelque part de cette donnée neige dans l'architecture.
Ça va être l'étape télésiège. Waouh, je suis déjà essoufflé.
Mais ouais, tranquille, faut y aller tranquille. Mais c'est bien, là, en même temps, c'est pas facile hein, de reprendre les bases. Et puis, je suis quand même d'accord que le ski, ça fait peur. Hein.
Non, mais. Oui.
Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. En vrai, c'est. Genre, pour les gens, ils s'aventurent dans des endroits, c'est hyper dangereux. Ça glisse vite, quoi.
Puis c'est pas comme une autoroute où il y a des règles claires, tu vas à droite, tu parles à gauche et tout. Alors, je sais pas, il y a des règles non dites, mais.
Non, bah en vrai, c'est toujours normalement celui qui est en amont qui a la priorité.
Attends, ça veut dire qu'il
y a. Non, en aval, non, ah, oui, excuse-moi. D'accord. Oui, pardon. En amont, donc c'est la montagne en haut, et l'aval, c'est en gros la vallée. Ça, c'est le petit truc pour s'en souvenir. Et du coup, faut toujours que le mec en amont il fasse gaffe à celui qui est en aval. Okay. Toujours parce que c'est lui qui a la vision et qui voit tout ce qui se passe, quoi.
Allez, allez, venez. On avance. Faut bien lever les pieds là, ouais. Faut enlever ton sac à dos.
Je m'appelle Quentin Colomba. Je suis pisteur secouriste et parmi les pisteurs secouristes, on peut passer une formation pour être niveau météo. C'est-à-dire qu'on fait des relevés de la neige et de la météo, des relevés quotidiens qu'on transmet ensuite à Météo France. Et toute cette compilation de données pour Météo France, ça leur permet d'établir principalement les bulletins de risque d'avalanche.
Quentin, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce qu'on va faire ?
Donc là, on est sur la station d'Avoria. Et on vient de prendre un télésiège pour accéder à la partie intermédiaire du domaine pour aller voir un petit peu comment est le manteau neigeux. Donc on va creuser un petit peu pour voir la qualité des différentes couches de neige au sein du manteau neigeux. Là, pour l'arrivée, pareil, on lève bien les pieds. Et puis après, nous, on ira sur la gauche. On va aller par là-dedans, là.
En essayant de ne pas se faire écraser par les skieurs.
Allez, sur les outils. Donc la scie, la pelle et la sonde. Ce qu'on peut faire, on prend la neige dans les mains, là, en surface. On la brasse. Et puis là, regardez, si j'essaie de faire une boule de neige, ben, en fait, j'y arrive pas. Donc là, ça nous donne des informations sur la qualité de la neige, quel type de grain ça va pouvoir être. Ça, c'est de la neige sèche. Voilà. De la neige humide, ce serait une boule de neige qu'on peut faire facilement pour faire une bataille de boule de neige. Allez, on creuse. Je vais effleurer la surface de ma coupe de neige avec la plaquette. Comme ça, on va entendre le bruit que ça fait. Donc là, je vais partir du haut. Voilà, donc là on a fait nos 20 cm de neige fraîche, on a quasiment rien entendu. Là on retrouve notre petite croûte. Donc la croûte de regel qui pourrait être quelque chose de sécurisant parce que c'est très solide. On imagine que c'est une petite plaque de béton. Ici c'est pas le cas. Est-ce que cette couche de regel, elle va nous permettre d'être sûr qu'on va pas passer à travers ? Ça, c'est ce qu'on va pouvoir après déterminer en faisant un profil complet. On a beau travailler sur l'étude de la neige, et il y a des gens dont c'est le métier, la passion, et qui ont voué leur vie à ça, et qui, de façon théorique, ne comprennent encore pas tout. Et encore plus aujourd'hui, avec le changement climatique, où on va avoir des périodes de chaud, et de limites plus neige qui vont remonter dans la saison, ensuite il va refaire froid, etc. Et on va avoir typiquement ce qu'on a observé là, des croûtes de regel, qui vont briser ce schéma classique de température qui a une courbe homogène au sein de tout le manteau neigeux. Là on est passé en dessous de la croûte, je repasse une fois, on entend qu'en fait on fend la neige de façon assez facile avec notre plaquette, mais par contre on entend que on est davantage comme dans du beurre. Là, on retombe sur une croûte. Vous voyez, notre croûte, là, elle fait 4 cm environ. Et on va chercher ensuite à passer... Ah, là, il y a encore une nouvelle couche. Là, vous voyez, les grains, ils se désagrègent très facilement. Et on repart en dessous. Et là, on est vraiment dans une vieille couche de glace. Donc de la neige qui a vraiment pris de l'humidité et qui s'est retransformée en glace. C'est de la neige qui a été tellement chargée en eau qu'on a beaucoup de mal à passer au travers.
Qui a été chargée en eau, c'est-à-dire par la pluie ?
Par la pluie, ouais. Parce que il y a 5-6 jours, il y a eu des précipitations et la limite pluie neige est remontée au-dessus vers 2300 mètres. Et il y a le phénomène des reptations aussi qui s'accentue depuis une dizaine d'années. Donc les reptations, en fait, c'est des fractures très lentes dans le manteau neigeux avec la partie inférieure de cette fracture qui va glisser tout doucement sur le terrain. Alors très souvent, c'est du terrain herbeux. Et ça, c'est des choses qu'on observait de temps en temps assez tard en saison sur ces zones herbeuses. Et aujourd'hui, on va les retrouver même en début de saison, dès décembre, dans des versants nord. Et le problème de ces reptations sur les domaines skiables, c'est que c'est des phénomènes qui évoluent très très lentement. Et quand c'est en amont d'une piste, on a du mal à gérer la sécurité de la piste. Parce que est-ce que ça va tomber? Est-ce que ça va pas tomber? Quand est-ce que ça va tomber? Bon, on ne le sait pas. On ne sait pas le traiter. On a essayé plusieurs solutions avec les solutions de déclenchement classiques à la dynamite. Ça ne fonctionne pas. Il y a même des solutions qui ont été tentées en injectant de l'eau sous le manteau neigeux, mais du coup, il faut une quantité d'eau énorme pour arriver à faire partir en avalanche ces reptations. Donc on n'a pas de solution là-dessus. La seule solution qu'on peut avoir, c'est en préventif, en installant des dispositifs au sol, sur le terrain naturel, pour essayer de fixer le manteau neigeux. On peut essayer à un autre endroit, voir si on a un peu plus.
Vous êtes prêts ?
Prêt.
Je m'appelle Gaëjean Robert, j'ai 53 ans, je travaille depuis 35 saisons sur la station d'Avoria, en tant que chauffeur de chenillette.
On s'attendrait à ce que le démarrage il fasse plus de bruit, mais c'est discret finalement.
Ouais, c'est pas tellement bruyant.
C'est parce que on est bien isolé à l'intérieur. Cette machine.
Je l'ai reçue il y a... Ben, c'est la troisième saison.
Vous travaillez en silence en général ?
Ouais. Ça fait du bien, non ?
Donc là, on est dans une dameuse, c'est comme ça que vous avez appelé votre machine ?
Oui. C'est une machine qui doit faire... Elle doit faire à peu près 5,50 mètres de large. Et puis, ça fait 530 chevaux, à peu près sur 9-10 tonnes. La consommation, on arrive à tourner à peu près entre 29-30 litres de l'heure.
Et on va où ?
Alors là, on va sur le centre station. On va aller essayer d'enneiger un peu les téléskis parce qu'ils vont ouvrir d'ici demain. Ça consiste à prendre la neige ou les canons qui étaient produits là, et puis basculer là et remonter. Je sais bien que c'est pas trop facile pour vous, parce que c'est vrai, quand on fait de l'enneigement, c'est un peu... Vous êtes à côté, vous êtes un peu ballotté.
Qu'est-ce qui a changé dans ce métier en 35 ans ?
Bon, la façon de faire, les machines, déjà beaucoup les machines.
Merci, compagnon, on va aller vous.
C'est surtout l'évolution des machines. Hein. Maintenant, avec les mesures comme ça embarquées, c'est top. Hein. Ça, c'est vraiment...
Comment ça fonctionne ? C'est un satellite qui vous dit l'épaisseur de la neige ?
Ouais. C'est un satellite, on est directement relié sur la machine. On a des coupelles sur le toit, là-dessus. Et ça envoie les informations directement sur la machine.
Ouais.
On a des codes couleurs, c'est-à-dire quand on est vraiment dans le rouge, là, on est entre 20 et 40 de neige. Dans le violet, on est entre 40 et 80. Et le vert, entre 80 et 1,20 m. Le bleu, 1,20 m à 1,60 m. Et le jaune, de 1,60 m à 3,20 m. Et en dessus, tout ce qui est marron, c'est vraiment là l'excellence.
Ça arrive souvent d'être dans le marron ?
Sur les sommets, oui. Ah, ouais, ouais. Souvent. Là, pas tout à fait encore maintenant, mais en milieu de saison, oui, c'est souvent.
Okay.
Et le soir, quand on rentre, bah, la plateforme-là, dès qu'on coupe la machine, ça se décharge. Et on a le relevé sur l'ordinateur, on est au bureau, là.
Donc l'ordinateur, il sait en permanence où est chaque machine, quelle épaisseur de neige il y a à chaque endroit de la station.
Tout se sait. Tout se sait, même les gyrophares, les phares, les températures, les machines, tout se sait. Et puis on ne faisait pas les mêmes horaires que maintenant. Maintenant on a un créneau en sachant que le matin, il faut quand même 8h30, 9h, grand maximum, on soit rentré. Parce que le domaine doit ouvrir. Avant on rentrait, comme on disait, on cassait la croûte. On repartait, maintenant on doit faire d'un trait. Et puis être rentré à 8h30 pour laisser la place aux clients. Hein. Ça.
Tu pourras rallumer la 42 ou pas ?
Ouais,
ça marche. On se fait une petite pause ?
Toi, t'as jamais arrêté le ski ? T'as tout le temps fait du ski ?
Bah ouais, en fait, j'ai tout le temps fait du ski. Puis tu sais, j'ai fait le sport études et tout à Chamonix.
Ah ouais.
Et j'ai tout le temps continué le ski, puis après j'ai bossé un peu, j'ai fait un an de CDI, mais je me suis jamais trop éloignée. J'avais toujours des petits cours les week-ends et tout l'année dernière. J'avais toujours, mais c'est quand même trop cool comme métier. Hein. T'es tout le temps en extérieur, enfin t'as pas de soucis quoi.
Ça fait combien de temps que t'es monitrice ?
Bah bonne question. Ça fait 5 ans avec les périodes où j'étais stagiaire. Mais là ça va faire la deuxième saison que je suis diplômée. Ça peut aller entre 4 et 6 ans et puis ça coûte environ, c'est une fourchette, mais environ 15 000 euros quoi. Pour passer tout ça, ouais, pas les stages, et puis il y a quand même aussi les logements quand tu vas en stage. Ouais. Donc c'est quand même. C'est pas hyper accessible quand même comme sport. Quoi.
Ok, c'est un vrai investissement sur l'avenir quand même.
Bah ouais, sur l'avenir, mais tranquille quand même parce que c'est quand même chaud au niveau de la neige quoi. Genre là, c'est cool parce que on va avoir Noël avec la neige si tout va bien, mais sinon c'est vrai que des fois, bah, y a eu plein de Noël sans neige hein,
ouais.
Ces derniers temps. Hein. Viens là, on va glisser là et puis on va. Faire un petit virage tranquillement.
Ok.
Les jeunes doivent pouvoir rester.
Valéry Giscard d'Estaing, 1977.
Et doivent aussi pouvoir venir s'installer dans les communes de montagne. Ils doivent pouvoir y vivre décemment, sans devenir des assistés, subventionnés pendant toute leur vie active. Le gouvernement facilitera cette évolution par la mise au point de mesures sociales ou fiscales qui permettront l'exercice normal de plusieurs activités. Des activités agricoles, mais aussi des activités artisanales ou des activités de tourisme ou de sport, par exemple. Pour encourager les activités non agricoles, la bonne direction à suivre est celle tracée par l'aide spéciale rurale. Enfin, il y a le tourisme. Un tourisme bénéficiant au maximum à la population locale. Un tourisme accessible au plus grand nombre. Un tourisme respectueux des sites et des paysages.
Hugues François, est-ce qu'on peut dire que ce discours de Valéry Giscard d'Estaing en 1977 à Val-Louise marque la fin du plan neige ou de la doctrine neige ?
Ce qui se passe en 77 à Val-Louise, c'est assez surprenant parce que Valéry Giscard d'Estaing, même si ça fait bizarre de le dire aujourd'hui avec le recul, à l'époque c'est vécu comme un président jeune, un président dynamique, qui est plutôt connu pour la pratique de l'héliski que pour une vision de la ruralité qui vise à préserver les milieux naturels. Hein, il y a un ancrage rural fort dans la paysannerie, dans l'agriculture, il défend le modernisme agricole d'un côté, le modernisme du tourisme à travers le ski de l'autre, et on s'attend pas du tout à Val-Louise à ce qu'il prenne les positions en faveur de la protection des zones de montagne qu'il a pu prendre à ce moment-là. Et effectivement, le discours de Val-Louise, il va marquer aussi un tournant dans l'aventure de l'aménagement. L'État considère qu'il a quelque part fini l'aménagement des zones de montagne. La doctrine neige, elle est terminée dans le sens où on construit plus de stations nouvelles. Par contre, la doctrine neige, elle a aussi semé des petites graines hein, qui ont continué à pousser une fois que la phase d'aménagement était terminée. Et c'est notamment le cas pour tout le secteur du BTP qui occupe une place importante en station de sport d'hiver où petit à petit on a des stations qui sont étalées, on a des dents creuses dans les stations qui sont bouchées et il y a toujours quand même une dynamique immobilière qui est assez présente.
On remonte vers le centre du village d'Avoria en télésiège. Et alors soudainement ça sent le chlore parce qu'on passe à côté d'un grand centre aquatique. On voit à travers les vitres des grands bassins avec des plantes un peu tropicales et des personnes en maillot de bain. Alors qu'il y a de la neige dehors. Ah oui, un énorme jacuzzi extérieur entouré de neige. Espace aqualudique.
On avait une toute petite piscine qui était extérieure.
Simon Cloutier.
Qui à 1800 mètres fonctionnait en gros 4 jours par an, parce qu'à 1800 mètres, ben, il fait froid. Donc c'était vraiment une gageure, cette piscine. Donc on crée une piscine couverte, on crée une patinoire, on va améliorer l'accueil. On va, en fait, le prétexte à l'extension de 2014, c'est de créer certes de l'immobilier, mais c'est surtout de créer tout ce qui peut manquer en termes d'équipement et d'accueil, pour que la station, quelque part, monte un peu en gamme et permette d'accueillir un public plus large.
Plus large, c'est-à-dire plus fortuné.
Ça veut dire ça aussi également, mais ça permet de diversifier l'offre et de diversifier la population.
Thomas Faucheur, on observe une montée en gamme des grandes stations de ski, un public de plus en plus fortuné. Est-ce que l'enjeu de l'accessibilité de la neige est une question que vous vous posez ici à Avoria ?
Bien sûr, c'est un des enjeux et un des risques. Mais en tous les cas, moi, à titre personnel, ce serait une de mes déceptions, c'est que du coup, la neige ou certaines stations deviennent un produit de luxe, à la fois par la raréfaction effectivement du produit de neige et en face, tout autant d'appétence.
Encore une fois, la neige restant un produit magique, exceptionnel dans l'imaginaire de chacun, donc l'appétence sera toujours là. Par contre, si les périodes se réduisent, si le nombre de stations qui peuvent être ouvertes se réduisent, ben, l'accessibilité, elle sera plus difficile, et ce qui régulera, malheureusement, ce sera le prix. Et ça, très sincèrement, moi je le crains, et c'est pas forcément ce pourquoi j'ai envie de travailler aujourd'hui.
Mais vous, en tant que directeur de domaine de ski, est-ce que déjà vous avez une responsabilité par rapport à ça? Et qu'est-ce que vous pouvez y faire pour que la neige reste accessible?
Évidemment qu'on a une responsabilité, mais on n'a pas non plus une liberté totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple sur Avoria, où quand il y a des saisons avec un peu moins de neige, on concentre du monde. Ben, on arrive à des problèmes de surfréquentation. Donc cette surfréquentation, on la freine sur le sujet des prix, mais à un moment donné, ça veut dire qu'on ferme les ventes ou des sujets comme ça. Donc on arrive à tenir des choses et on arrive à freiner certaines choses, etc. Mais jusqu'à un certain point, on doit aussi rester dans un schéma concurrentiel par rapport à d'autres, etc., etc.
Viens là, on va glisser là et puis on va faire un petit virage tranquillement. On va pas se mettre tout de suite dans la pente. Hein. C'est la prise de risque, c'est pas pour aujourd'hui. Peut-être demain, mais aujourd'hui on va y aller tranquille. Vas-y, bah là, plie bien tes jambes. Okay. Faut être détendu. Hein. On met les bras devant, tranquille. Détendu. Et puis tu regardes au loin. Et vraiment, quand tu appuies sur ton pied gauche, ça te fait tourner à droite.
Ouais.
Quand tu appuies sur ton pied droit,
ouais, ça te fait tourner à gauche.
Ouais. Voilà, tranquille, regarde, détends-toi, hein, tout va bien.
Se détendre, voilà. Quand tu veux te détendre. Eh, la neige, elle est pas pareille, là. Hein.
Ouais, c'est parce qu'il y a les canons à neige.
Mais là, elle est verglacée un peu, non?
Ouais, mais là, ça va mieux, là, regarde.
Okay.
Juste mets ton poids à gauche, là.
Ok.
Voilà. Ah.
Ça fait mal aux cuisses.
Serre
hein.
Un peu tes jambes. En vrai, tu te débrouilles bien. Hein. Ouais, top.
Les sensations reviennent petit à petit.
Ah, bah oui.
Là, la neige, elle est encore plus bizarre.
Bah oui, elle est boulette.
C'est pas méga agréable.
Ouh.
On est presque arrivé en bas, déjà.
Et là, ton challenge, c'est quand on va s'arrêter sur le bateau, tu dois t'arrêter en dérapage.
On est arrivé hier soir. Ce matin, on est allé sur les pistes. Il y avait du soleil toute la journée. C'était formidable. Une journée, vraiment, on vient souvent.
Et la neige, elle est bonne?
Franchement, je ne suis pas un pro, hein, mais ça dépendait des pistes.
Non, ça allait. En vrai, elle était bonne, un petit peu glacée par moment.
Ouais,
mais sinon, c'était bon.
Vous venez régulièrement tous les ans?
On vient tous les ans au ski test d'Avoria. Le premier week-end d'ouverture,
dans le même
on est ici tous les
traditions.
Ans. Si tu reviens l'année prochaine, on sera là.
Et vu que vous revenez tous les ans à la même époque, vous voyez quoi comme évolution par rapport à l'enneigement?
Moi, je vois une évolution. Enneigement, c'est bien.
Non, tu rigoles, l'année dernière. Mais l'année dernière, on est arrivé là en bas, il y avait moins de neige.
Oui,
et
mais
ici, il y en a encore moins.
Ça dépend des années, ça dépend des années.
Ça dépend des années, mais les deux années qui viennent, il y en avait de moins en moins.
Et sinon, tu vois quoi? Un petit Jäger, un petit Mirabel.
On me pose souvent cette question de la fin du ski.
Luc François.
Alors, il y a plusieurs manières d'y répondre. La première, c'est que ça va quand même dépendre des politiques climatiques qu'on va être capable de mettre en place et du niveau de réchauffement qu'on va atteindre. Avant de penser l'adaptation, il me semble toujours important de rappeler que un des enjeux au niveau planétaire et dans nos actions humaines, c'est d'être en capacité de limiter les impacts du changement climatique. Parce que quand il fera plus 4 degrés au niveau mondial, on se demandera plus si on peut faire du ski, si on peut pas faire du ski. Notre préoccupation, elle sera pas du tout à ce niveau-là. Donc, je pense que aujourd'hui, on est dans un contexte où on demande aux zones de montagne une forme de deuxième révolution. C'est-à-dire qu'il y a eu une première révolution, parce que quand le ski arrive après-guerre, c'est vraiment le passage d'une économie paysanne à une économie très capitaliste. Et aujourd'hui, alors que c'est plus ou moins la même génération, ou directement les enfants de la génération de ceux qui ont construit les stations, que les montagnards se sont appropriés, qui revendiquent comme faisant partie de leur identité, effectivement, avec le changement climatique, quelque part, on leur demande une deuxième révolution, c'est-à-dire de réinventer globalement une économie de montagne.
Vous, en tant qu'architecte, vous réfléchissez à ce que sera Avoria en 2050 et après, quand la neige sera de plus en plus rare?
C'est la, entre guillemets, la principale de mes préoccupations aujourd'hui.
Simon Cloutier.
C'est comment faire pour que ce territoire-là ne devienne pas une friche industrielle plus tard. Et donc, commencer à sensibiliser les populations, les acteurs, à se dire que la montagne, on peut la vivre autrement que comme un simple Disneyland, si on peut dire ça comme ça. C'est un territoire, il faut commencer à trouver des solutions pour fixer des populations ici à l'année. Donc c'est pas en les logeant dans des petits studios de 24 mètres carrés qu'on fait vivre une famille à l'année avec ses enfants, son chien, et qui n'a pas de garage. Qui a, voilà. C'est toutes ces réflexions-là aujourd'hui qu'il faut qu'on réussisse à amener et à financer.
Et vous avez le sentiment que cette anticipation, elle est en cours? Il y a un travail de discussion, de débat pour se projeter collectivement vers un avenir?
C'est très timide. C'est-à-dire que pour l'instant, les acteurs locaux qui ont vu en fait cet or blanc arriver, leur vie a complètement changé. Ils sont passés d'un statut de quasiment d'agropastoralisme à quasiment chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, leur dire que ce modèle-là qu'ils ont connu pendant une cinquantaine d'années, c'est quasi fini, c'est un choc pour eux. Donc ils n'ont pas encore envie d'aller vers ce renoncement quelque part. Parce que c'est ça, c'est un renoncement. C'est de se dire, ben maintenant, il va falloir moins consommer, il va falloir moins s'appuyer sur la neige, il va falloir moins se déplacer en motoneige. On peut dire qu'aujourd'hui, le moment de la transition est arrivé parce qu'on a quelque part bien pressé le citron à ce territoire. On en a extrait tout le jus. Et maintenant, ben, ça serait presque logique qu'il y ait un retour sur ce territoire. Se dire que ce territoire, maintenant, il faut peut-être le ménager et en prendre soin. On n'est pas obligé de le développer comme on l'a fait jusqu'à présent, de manière un peu effrénée.
Les bras devant.
Ok. Oh non. Oh non.
Merci à Hugues François, Laurie Éloi, Simon Cloutier, Thomas Faucheur, Noélie Jacques Sermet, Quentin Colomba, Jean-Robert Gay et à ma maman. Documentation Annie Signoret. Archivina Samia Jedi, lecture Nathalie Canoui, prise de son Virginie Lorda et Romain Lenoir, mixage Manon Houssin, chargée de programme Marivana Bolivier et Anaï Morales, coordination Emmanuel Laurentin. C'était Neige, écho d'une disparition. Deuxième épisode, Le Capital Neige, un documentaire de Quentin Teneau réalisé par Agnès Catou. Les pages web sont sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.